Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Vous êtes criminologue, professeur de criminologie, consultant en sécurité. Vous êtes notamment conseiller Nicolas Sarkozy, également Manuel Valls. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Je vais citer en décembre l'encyclopédie des espions et des espionnes. Votre actualité à la télévision, c'est depuis février 2021. Vous participez à cette nouvelle émission de France 2 consacrée au crime et plus particulièrement au cold case. Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, c'est le titre. C'est le samedi à 14h. C'est présenté par Marie Drucker. Et vous êtes, Alain Bauer, l'expert de l'émission. En tant que prof de criminologie, vous revenez sur les affaires, plus précisément sur la manière dont a été traitée l'enquête. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette émission? Pourquoi avoir accepté ce rôle?
Alors d'abord, ce n'est pas une émission de mise en scène, ce n'est pas une émission de clash, ce n'est pas une émission avec une musique qui fait peur, des courses-poursuites dans tous les sens, c'est une émission pédagogique. C'est la capacité à analyser une histoire d'une affaire criminelle compliquée, résolu ou pas résolu, il y a des deux cas de figure, c'est pas seulement du cold case, c'est parfois du cold case qui à la fin se termine entre guillemets bien.
En l'occurrence dans celle de Grilly, on va l'entendre,
vous avez raison. Et puis c'est un élément où on construit l'histoire avec Stéphane Martin et Marie Drucker, on n'est pas seulement des présentateurs ou des éclaireurs, il y a un travail collaboratif de construction de l'histoire. Ensuite, il y a un travail de mise en image, qui n'est pas du tout mon métier, et qui est remarquablement fait par les différents auteurs, pour que tout amène le téléspectateur à se construire lui-même, son analyse, son opinion. On l'éclaire, mais on n'essaie pas de le mettre en condition. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressé par le côté vraiment de pédagogie, de transmission et surtout d'éclairage sur les techniques, les méthodes, l'histoire. On y apprend des choses. Moi-même, je réapprends des choses. Donc, je profite de ce côté-là. C'est ça qui m'a amené à accepter la proposition qui m'a été faite par Stéphane Sidbon, le patron de France Télé, quand il a eu cette idée de remettre en ligne un magazine de faits divers.
Alors, nous aussi, on apprend des choses. On va parler du dossier de samedi prochain, ce sera le 29, c'est le Grêlé. Vous avez en partie écrit l'épisode, donc vous connaissez bien l'histoire. On vient de connaître le dénouement de cette affaire du Grêlé après 35 ans, après son premier méfait. Qui était-il d'un mot?
Alors c'est un policier devenu gendarme qui, durant un laps de temps très long, entre 1983... Et quasiment 30 ans plus tard, a agressé, violé des enfants et des adultes, tué aussi, donc c'est un serial killer un peu particulier, et qui avait réussi à masquer son identité jusqu'à ce que la détermination des enquêteurs, enfin, permettent non pas de l'identifier, mais de le convoquer pour une identification, et c'est le moment où il s'est suicidé.
On va en parler. Entre 86 et 94, notamment, il est soupçonné d'avoir commis 4 meurtres et au moins 6 viols. Les enquêteurs le surnomment le Grêlé en raison d'un portrait robot qu'il présentait avec de l'acné. Et alors, ça commence par un premier crime. C'est une petite fille qui a été violée dans la cave de son immeuble et tuée par quelqu'un qui avait passé longtemps ce jour-là dans l'immeuble, qui a salué nombre de voisins. On a donc son portrait robot. L'affaire semble pour les policiers facile à résoudre. Et là, c'est votre première intervention à la Bauer. Vous racontez l'histoire du portrait robot, l'histoire en général du portrait robot. Et j'avoue que j'étais stupéfait.
Alors, c'est une histoire qui commence en fait en 1880 à Scotland Yard. Mais le grand moment, c'est 1952-53, quand M. Dambron...
On est en France.
En étape, à Étaples-sur-Mer, pour amuser ses enfants, découpe des magazines pour reconstituer des personnages pour ses enfants, puis photographie des voisins et des gens de la ville pour que les enfants reconstituent le visage, et il va obtenir une médaille de bronze au concours Lépine, et ceci va beaucoup intéresser le ministère de l'Intérieur, qui jusqu'à présent avait plutôt des portraitistes, des gens qui vous écoutaient en disant « Alors Frédéric, il est comment Monsieur Vandel ? Alors écoutez, il est comme ci, comme ça, il a des cheveux, il n'en a pas, il est grand, il est gros, il est petit, il est mince. » Et il y a un problème avec le témoignage humain, c'est qu'on se rappelle ce qu'on veut bien se rappeler. Par contre, quand on visualise quelque chose, on devient plus précis, plus déterminé, et c'est ce qui a permis d'avoir le portrait-robot qui ensuite va être récupéré par le FBI.
En 68.
C'est une des rares inventions françaises qui ont été récupérées par les Américains. Alors à l'époque, c'était avec des tableaux où on mettait des éléments horizontaux qui rentrait dans des cases, puis on prenait tous les éléments possibles, et puis ça s'est évidemment numérisé et améliorée au fur et à mesure. Mais oui, c'est l'origine moderne du bertillonnage moderne.
C'est le jeu d'un papa pour ses enfants et qui se termine au FBI. Vous l'avez dit, il y a un miracle qui s'est produit en 2021. On pensait ne jamais trouver de réponse depuis 2001 sur l'identité du grêlé. Tout ça grâce à cette nouvelle juge qui reprend le dossier. On est en 2014. Elle s'appelle Nathalie Turquet. Elle est nommée en charge de l'affaire. Elle reprend tout à zéro et elle s'aperçoit parce qu'on le type allait très souvent en brandissant soit une carte de police, soit une carte dans gendarmerie. Vrai ou fausse, on ne le sait pas. En tout cas, elle s'aperçoit, Nathalie Turquet, que très peu de recherches ont été faites du côté des gendarmeries parisiennes, alors que le coupable montrait une carte de police. Elle oriente donc son enquête en cette direction.
Elle va regarder où ont été commis les faits, les meurtres en question dans Paris, et elle va dire, il y avait des gendarmes qui étaient logés à l'époque dans des casernes à Paris, eh bien je veux la liste des gendarmes qui ont de tel âge à ce moment-là dans les années 80, début des années 90. Et elle va avoir un listing avec 700 noms qui vont sortir, et elle va dire, je veux 700 prélèvements ADN. C'est un peu un pari. Et elle va aller demander à chaque commissariat, à chaque gendarmerie de l'endroit où habitent ces gens-là, de les prélever pour comparer l'ADN à celui du grêlé.
Dans la liste, il y a ce fameux François Vérov qui est contacté le 24 septembre en vue d'une vérification d'identité et donc de prélèvement ADN.
Donc il s'est préparé, puisque j'ai appris par la suite qu'il avait vidé tous ses comptes, mais il a pu également effacer toute pièce en rapport avec son passé criminel.
Clairement, il sait qu'il est foutu. Et là, je pense qu'il va cheminer pendant 24-48 heures et il va décider de se suicider au gros du roi.
Il y a un environnement quand même, un contexte, un faux policier ou un faux gendarme. Comment se fait-il qu'on n'ait pas passé au crible tous les policiers, tous les gendarmes? Pourquoi cette lacune de l'enquête, Alain Bauer?
D'abord, ça n'aurait pas servi à grand-chose, puisque l'ADN, on n'aurait pas pu le retrouver. Il faut aussi considérer les évolutions criminologiques et criminalistiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de base d'ADN. Mmh. La base d'ADN, elle va commencer à apparaître avec SK1, grâce à la commissaire Monteil, qui pour la première fois va permettre de créer un fichier national des empreintes génétiques qui n'existe pas.
Là, on est en quelle année ?
Là, on est dans les années 84 ans ou 5 ans plus tard. Le fichier national, c'est presque 10 ans plus tard.
Ouais.
Donc, c'est un processus très lent. À l'époque, on ne prend pas l'habitude non plus d'avoir les séquences des policiers et des gendarmes en charge de l'enquête, ce qui n'aurait pas non plus permis pour éviter ce qu'on appelle la pollution des scènes de crime, ce qui est un sujet. On ne savait pas comment ne pas polluer une scène de crime. Donc, il faut considérer qu'on est dans la préhistoire de la criminalistique
moderne.
Mais donc,
moderne. Ce n'est pas... Le sens de ma question, c'était... Est-ce que c'est un aveuglement de la police ou de la gendarmerie qui ne veut pas faire l'enquête sur ses propres troupes ?
Ça aurait été une bonne idée de le faire. Et d'ailleurs, ils le font. Mais ça n'aurait pas servi à grand-chose. D'abord, parce qu'une fausse carte de police, à l'époque, elles étaient aussi falsifiables que les fausses cartes d'identité ou les faux permis de conduire en papier. Mmh. Ce n'était pas une activité très compliquée. Mais surtout, la modernisation des outils permet des découvertes qui n'auraient pas pu avoir lieu à l'époque. Et puis, dans une enquête, vous avez des centaines de pistes, des milliers d'options. Et je précise d'ailleurs que c'était le deuxième crime, pas le premier. Le premier, c'est un viol sans meurtre. Là, c'est le deuxième cas. C'est un viol avec meurtre de la jeune fille, de la petite fille.
Vous avez raison. Il faut être extrêmement précis, surtout le jour de la parution du baromètre Lacroix sur la confiance envers les médias. Alain Bauer reste avec nous. Culture Média continue. On a encore plein de choses à dire sur le grêlé.
L'émission référence sur les médias.
C'est Europe 1 Culture Média. 9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Alain Bauer, professeur de criminologie, il intervient à ce titre dans l'émission présentée par Marie Drucker. C'est sur France 2, Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait. C'est le samedi à 14h. On parle de l'émission du numéro qui va passer samedi 29 en 8 à 14h. C'est l'affaire du grêlé, ce tueur en série qui a été découvert, dont l'identité a été découverte avec son suicide seulement en septembre dernier. 35 ans de méfaits auparavant. Les premiers actes du meurtrier remontent à 86. À l'époque, on n'utilisait pas l'ADN, ça n'existait pas. La police a fini par l'utiliser. Et vous dites qu'il y avait de la réticence à utiliser en France la technique de l'ADN. Réticence de qui et pour quelle raison ?
Alors, il y avait une réticence à faire un fichier national. L'ADN, on ne savait pas bien ce que c'était, mais créer un fichier national. Parce que l'ADN ne sert que si on peut le comparer à quelque chose.
Oui, c'est toi ou c'est pas toi.
C'est toi ou c'est pas toi. Et pour avoir ça, il faut donc un fichier de base de référence. C'est comme le numéro national d'identification que vous avez, parce que vous êtes votre année de naissance, etc. Il faut une base, autrement
bien
ça
ne
sert à rien.
Évidemment.
Une carte d'identité, il faut pouvoir la comparer à l'émetteur de la carte d'identité. Tout ça n'existait pas. Donc l'idée d'avoir un fichier national des empreintes génétiques a posé un problème absolument majeur à la société française, parce qu'elle avait peur du fichier. le fichier fait peur. Il y avait eu une tentative en 1976 qui s'appelait Safari, un fichier national interconnecté qui permettait de relier les impôts, l'état civil, etc., qui avait créé une révolte de la société et permis la création de la CNIL, la Commission informatique et liberté. Là, le même problème s'est posé en disant, attention, qui on va mettre dedans ? Si ce ne sont que les gens déjà connus, bon, ça permet de savoir qu'ils ont déjà été condamnés. S'ils ont été condamnés. Non, il fallait mettre aussi les suspects. Ah oui, mais ils ne sont pas condamnés. Oui, mais est-ce qu'on pourrait mettre une base élargie, par exemple, tous les policiers et les gendarmes qui interviennent sur les scènes de crime pour éviter la pollution ? Ouh là 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 là, vous élargissez énormément. Et tout ça a ramené à l'occupation. C'est-à-dire, vous allez créer un fichier, alors pas un fichier juif, mais un fichier de suspects. La loi des suspects. C'était de très mauvais souvenirs. Il a été très compliqué de mettre en place le fichier des empreintes génétiques. Il a fallu de manière très restreinte. Dans un premier temps, c'était seulement des fichiers épars qu'on pouvait regrouper en fonction d'une affaire. Ce qu'on appelle les fichiers sériels, il a fallu que le Conseil constitutionnel s'y prenne à deux fois pour les autoriser uniquement pour les affaires très graves, dans des conditions très compliquées, avec des problèmes très complexes. Donc on sent bien que tout ça n'est pas arrivé tout seul, malgré la volonté des policiers et des gendarmes découvrant les charmes de l'ADN. Attention, ça n'est pas ce n'est pas un système magique. L'ADN, c'est un élément de l'enquête. Ça ne répond pas à tous les problèmes d'enquête parce que l'ADN peut être pollué, manipulé ou erroné.
On l'a bien vu dans toutes les affaires dont on parle souvent ici. Y a toutefois des zones d'ombre dans ce reportage qui revient pourtant sur les zones d'ombre. Par exemple, on découvre que le grêlé a possédé une Volvo blanche, comme l'ont indiqué plein de témoignages. Une Volvo blanche, modèle 740, je cite de mémoire, intérieur bleu. Tous les propriétaires de Volvo blanche sont passés au peigne fin, surveillés, je connais plus le vocabulaire exact. Comment se fait-il que lui soit passé entre les mailles du filet alors qu'il a une Volvo blanche avec un intérieur bleu ?
On ne sait pas. C'est les charmes des enquêtes, c'est que parfois ça merde. Et qu'on n'y arrive pas. Soit parce qu'il y a trop d'éléments, soit parce que quelqu'un s'est dit oh, c'est un flic, non, soit parce que quelqu'un n'a pas fait le machin, soit parce que la carte grise n'était peut-être pas à jour, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'un bon fichier, c'est un fichier à jour. Et donc, ben oui, si, on ne sait pas s'il l'a acheté neuf, d'occasion, enfin vous voyez ce que je veux dire. Tous ces éléments-là sont ceux qui, un petit élément, créent les conditions d'un désastre. Michel Rocard, mon patron pendant longtemps, expliquait qu'en matière de grande catastrophe, il y a toujours privilégié la connerie au complot. Ça existe aussi en matière d'enquête.
Et voilà pourquoi il est si intéressant de voir cette émission pour ce genre d'analyse d'Alain Bauer. Autre lacune dans ce reportage, si je puis me permettre, même si ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est à vous que je vous pose la question parce que vous êtes en face de moi, est l'acné. Pourquoi ce surnom du grêlé ? Il s'appelle le grêlé, on voit des images de lui, des photos de lui, des vidéos de lui, il n'a pas de boutons, il n'est pas grêlé. Est-ce qu'on ne cherchait pas la mauvaise personne ?
Alors, d'abord,
ou alors, est-ce qu'il s'est fait des faux boutons, pardon de dire les choses ?
C'est possible qu'il ait été grimé, c'est possible qu'il ait eu une maladie juste là. Hein. On a tous des boutons qui apparaissent à des moments. Et puis, le témoignage humain, c'est le drame du témoignage humain. Si tout d'un coup, en sortant de ce studio, on sort une seconde, on revient, et je vous dis, décrivez-moi les gens qui sont dehors.
Moi, en plus, je suis prosopagnosique, je ne reconnais personne.
Non, mais comprenez ce que je veux
j'ai
dire.
J'ai bien compris.
Donc, maintenant, je fais l'inverse. C'est-à-dire, je prends 10 personnes dehors, et je leur dis, il y avait quelqu'un assis devant le studio, décrivez-le ou la moi. Et vous allez voir, ça va être très intéressant parce que nous avons tous des petits défauts de perception, les biais cognitifs, ça s'appelle. Je fais un cours sur les biais cognitifs parce que c'est très intéressant. Et dans les biais cognitifs, eh ben, il y a ça. Et le témoignage humain est extrêmement friable.
Merci beaucoup Alain Bauer. Je rappelle, au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, c'est l'affaire du grêlé. Ça sera samedi 29 à 14h.
En deux épisodes.
Et puis je vais citer La criminologie pour les nuls. C'est votre livre qui vient d'être réédité. C'est évidemment chez First dans la fameuse collection Pour les nuls. Merci d'avoir été avec nous en direct Alain Bauer. Culture Média continue. Il y aura les infos de 10h et puis les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé le 20h de TF1 et me dit-il, il a beaucoup progressé en calcul mental. Nos invités, ce sont les deux jeunes sœurs musiciennes Camille et Julie Berthollet. Leur nouvel album s'appelle Série. Elles jouent, c'est quoi ? Des génériques de série. Et puis dans les indispensables de la BD et puis de la gastronomie, Laurent Mariotte profite de la venue des sœurs Berthollet pour nous parler de sœurs. Ça se trouve, il va nous inviter les sœurs Tatin. L'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. A tout de suite.
Jusqu'à 11h. Europe 1, Culture Média.